Bonjour et bienvenue, c'est le meilleur de la bande originale avec Leïla Kadoboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, l'humeur de Marina Rollman, l'info maltraitée de Tanguy Pastureau et au programme aujourd'hui, Zep, le papa de Titeuf, la bande originale de Mathieu Amalric et en live Kimber Rose. Le meilleur de la bande originale, c'est parti. Bienvenue Zep.
Merci.
Bienvenue à ce micro à fond le slip. Au moins l'avantage c'est que le titre est clair.
On s'en souvient.
Il est précis, on s'en souvient. C'est une expression. Elle est encore d'actualité cette expression ?
À fond le slip.
À fond le slip, ouais, ça se dit
pense,
ou pas ?
Ouais. Enfin, ça, en tout cas Titeuf le dit, on verra si ça...
Si ça accroche dans les récré.
On verra si ça accroche. Mes gamins m'ont dit c'est nul, plus personne porte des slips, tu vois, tout le monde porte des boxers. C'est un truc de vieux le slip.
Ouais, mais à fond le boxer...
Mais à fond le boxer c'est nul.
T'es sûr, ça passe mal.
Ça fait Frédéric Mitterrand un peu.
Alors, il est beaucoup plus ancré dans l'actualité, j'ai l'impression. Est-ce que c'est l'un des exemplaires? Parce que, il y a, encore une fois, c'est toujours le zizi qui tracasse Titeuf, c'est la volonté de draguer, la volonté d'embrasser, toutes les problématiques que l'on peut avoir, et on en parlera tout à l'heure avec le docteur Marion Robin, des problématiques de l'adolescence. Donc, il est en plein là-dedans, dans son éveil, dans sa sexualité. Mais il y a, l'actualité est plus présente. Il y a évidemment beaucoup de vannes, chaque page, chaque planche, chaque histoire est un véritable sketch, même s'il y a quand même une progression horizontale, j'ai envie d'appeler comme ça, du début jusqu'à la fin de votre recueil. Mais l'actu a beaucoup joué là, plus que d'habitude, non ?
Ouais, un peu plus, je pense. Le fait d'avoir travaillé, d'avoir fait un blog pour le journal Le Monde, où je traitais l'actu, ça m'a un peu plus connecté.
C'est une résonance.
Ça. Ouais. Et souvent, je traitais des sujets en me disant, tiens, ce serait marrant de voir ce que Titeuf en pense. Et je notais des idées par rapport à ces thèmes. Et puis, c'est aussi une année pendant laquelle j'ai fait cet album qui a été assez mouvementée. Donc, il y avait pas mal de bons sujets.
Il y a déjà un président américain qui a pratiquement la même coiffure maintenant que Titeuf. Donc, ça, vous avez porté plainte ou pas contre Donald Trump pour sa mèche?
Ben ouais.
Droit d'auteur. T'imagines ce que tu prends?
C'est vrai.
Excusez-moi, mais la mèche orange, elle est à moi.
Ouais, c'est vrai qu'il usurpe un peu le truc, quand même.
On est d'accord?
Ouais.
C'est une honte.
Il essaye de faire la grimace avec la lèvre en plus, mais il y arrive pas très bien.
Non, alors, les attentats résonnent et c'est pas facile quand même de continuer de blaguer ou même de dessiner autour de la menace d'une ceinture d'explosifs ou autre. Enfin, c'est particulier, non ?
Ouais, en même temps, ça fait partie du quotidien maintenant.
Et y compris pour les enfants.
Ah ouais. Moi, je pense que pendant longtemps, justement, on a imaginé que les enfants vivaient pas forcément dans le même monde que nous. Donc, tout ce qui était littérature enfantine, bande dessinée avec des enfants, on enlève une partie des sujets.
Mmh. Et je pense on cache et on occulte.
On cache parce que les gens qui font de la bande dessinée à destination des enfants ou la littérature à destination des enfants le font en pensant à leurs enfants. Et donc, on a toujours envie un peu de protéger ses propres enfants. Et on dit bon, moi, on va parler de ça, mais peut-être pas de ça, on va lui montrer le monde tel qu'il est, en partie, mais enlever tout ce qui
tel
semble...
Tel que j'aimerais qu'il soit en partie.
Ouais, tout ce qui nous semble un peu inquiétant, on n'a pas envie de leur montrer.
Et en même temps, on voit qu'il mélange entre les véganes et l'IVG, que ça fait beaucoup de données
drôle,
pour un
ça.
Enfant qui essaye...
Expliquer en deux mots, quoi.
C'est moi qui explique,
c'est vous.
En fait, Titeuf assiste à une manif anti-IVG, et il est toujours assez logique en fait. Et c'est pas logique d'imaginer que des gens sont en train de défiler pour retirer des droits à d'autres gens. En fait, il peut tout à fait comprendre que des gens manifestent pour n'importe quoi,
pour obtenir
quelque chose, mais pour enlever des droits à d'autres gens, il comprend pas. Donc son premier réflexe c'est de dire IVG, ça doit être un truc sur le véganisme,
ouais,
quoi.
Ouais,
c'est contre la viande.
C'est végétarien.
Ouais. Et donc avec ses potes, ils se montrent tout un truc sur en fait c'est pour tu m'étonnes, je choisis la vie plutôt que les légumes. Moi aussi, je choisis la vie. Enfin, donc, ils sont dans un trip comme ça. Et quand un de ses copains lui dit, mais non, c'est pas ça, c'est l'avortement. Alors, il est sidéré. Il dit, mais non. Enfin, et il reste crochet. Il fait un mélange sur le véganisme et la manif pour la vie.
C'est aussi la confusion. Enfin, c'est comment faire pour se repérer avec toutes ces mouvances, toutes ces tendances
avec, en fait,
pour
je
les
crois
gamins.
Il y a une logique enfantine, c'est que tout ce qui est absurde, il le remarque tout de suite.
Ouais,
il comprend pas forcément quelle est la réalité du truc, mais il comprend ce qui est absurde dans nos fonctions. Et il y a plein de choses.
Même les Illuminati, enfin, ça va loin, quoi, parce qu'on se dit que...
Ça, c'est un sujet qui est vachement présent chez les enfants, le complotisme. ça a pris une ampleur énorme avec les réseaux sociaux. Ouais. Il y a des stars du complotisme que vous pouvez voir sur YouTube et qui sont des stars auprès des enfants. Mais ce sont pas des enfants là. Pour le coup, c'est des adultes qui ont été pendant des années des espèces de types dont tout le monde se moquait. Et aujourd'hui, ils ont 10 000 ou 50 000 followers.
La vengeance, oui.
Voilà. Moi, c'est leur grande revanche.
Il est quand même clair que Titeuf, on n'arrête pas de dire c'est pour les enfants, c'est de la bande dessinée, ça parle aux ados. Mais moi, je me suis régalé. Je me suis marré et je vois pas où il y a une limite d'âge à consommer un Titeuf.
Bah, moi, j'ai jamais dit que c'était pour les
non,
enfants.
Mais voilà.
Il se trouve que les enfants sont venus, se sont emparés de Titeuf assez massivement, mais au départ, je pensais même pas avoir un public de cet âge-là, parce que pour moi, ils étaient trop proches de Titeuf et ça allait pas forcément les intéresser d'avoir une espèce de relecture de leur quotidien, parce que le quotidien de Titeuf, c'est pas Harry Potter, quoi. Il se passe pas des choses fantastiques.
Il y a
encore qu'il y a Harry Potter cette fois.
En fait, est-ce que vous réussissez pas ce que font les producteurs ou dessinateurs de Shrek, c'est qu'il y ait une double lecture, c'est-à-dire un enfant peut lire Titeuf à sa manière avec son prisme et qu'il y a entre les lignes ou entre les planches une autre lecture pour les adultes.
Oui, il y a une double lecture. Et ça vient du fait que, en fait, quand j'écris les histoires, je me mets dans la peau de Titeuf, donc je ricane bêtement à mes plaisanteries et potaches. Et après, quand je les dessine, je les dessine en ajoutant des gags et des vannes qui sont celles de mon âge. Donc, j'ai cette double lecture en le faisant aussi.
Même les élections sont présentes, puisque forcément.
Parce qu'il faut dire qu'on en a bouffé.
On en a bouffé. Ouais, mais là, les élections avec les promesses tenues ou pas tenues, les fausses promesses faites par
les
Titeuf. C'est extrêmement drôle. Ça s'appelle À fond le slip, c'est le 15e déjà.
Ouais.
25 ans de Titeuf.
Ouais.
C'est fou.
J'ai passé la moitié de ma vie avec Titeuf.
C'est dingue.
Ouais. Mais bon, c'est que le début.
Non, c'est joyeux.
J'espère vivre centenaire. Donc,
très bien.
J'ai encore 50 ans avec Titeuf.
Il n'y a pas, de durée de vie pour Titeuf. Titeuf restera éternellement jeune.
Je sais pas.
Parce qu'il avait un peu vieilli sur le tome précédent.
Ouais. Ouais, en fait, il tentait de précipiter l'adolescence, mais ça marchait pas très bien. Et non, il est toujours juste avant que ça bascule. Enfin,
autrement dit, est-ce que Titeuf va aller en fac ou est-ce qu'il va rester dans la cour de récré du Bahut? Il sait pas encore.
Pour le moment, il va rester là. Mais c'est possible que vers mes 95 ans, j'ai un petit problème avec l'enfance. Je passerai en fac.
Non, le seul avantage, c'est que Titeuf sera dessiné plus gros, avec une typo plus grosse, et on pourra mieux lire.
Des grands albums.
C'est ça, des grands albums. 25 ans, 21 millions de livres vendus. Formidable succès. C'est chez Glénat, s'appelle À fond le slip. J'espère, Tom Villa, que vous avez compris pourquoi Zep était notre invité maintenant.
Vous ne pouviez pas me faire plus plaisir, Nagui.
D'accord.
Parce que déjà, pour recevoir un auteur de BD, c'est la garantie que pour une fois, je lise un livre en entier. Et surtout parce que Zep, je suis fan, alors je sais, voilà, je le dis régulièrement aux invités, sauf que là, c'est vrai. Preuve en est, je suis retourné chez mes parents le week-end dernier, et sur quoi je suis retombé? Sur mon exposé que j'ai refait en 5e.
Non!
Sur Titeuf.
Oh, il est là, t'es venu avec en plus.
Bien sûr, j'avais fait tous les dessins des persos, etc. Bref.
Attends, passe.
Non, tu on fera plus tard. Je finis ma chronique, on finira après. Bref.
Le truc qui est fou, c'est qu'il était jusqu'en 5e, quoi.
Mais oui, j'avais 17 ans. J'avais 12 ans, on est en 2002, pour vous resituer un peu. Je suis amoureux de Madame Droulers, ma prof de français, châtain, des fossettes, des yeux bleus, un parfum à la marguerite et un sacré petit cul. Et
mais ça va
grâce
pas.
À vous, quand j'ai eu 20 sur 20. Non, je sais pas ce qu'elle est devenue, je l'ai recherché sur Facebook, je l'ai pas trouvé.
Mais t'es fou.
Et grâce à vous, Zeb, j'ai eu 20 sur 20. Pourquoi? Tout simplement parce que Titeuf, c'est un vrai héros moderne. C'est grâce à lui qu'on a tous évolué. On voulait tous ressembler à Titeuf quand on était gamin. Alors pas physiquement, parce que chauve avec une mèche blonde, il y a quand même un petit côté gamin qui sort d'une chimio. Mais on voulait tous être Titeuf gamin. Non mais c'est vrai. Il fait des bombes à eau avec des préservatifs, il met des pétards dans des crottes de chien. Vous aviez qui, vous? Tintin? Sans déconner.
Mais déjà la mèche. Hein.
Bah oui, enfin bon, non, mais c'est pas la même mèche. Je peux pas te laisser dire ça. Tata, il a pas de potes. Ses seuls amis, c'est un chien et un vieux marin alcoolique. Même les enfants de la DAS, ils ont pas un entourage comme ça. Et puis au moins dans Titeuf, on assume, ça parle du désir sexuel, mais c'est clair. Pas comme dans Tintin, où on est dans un monde d'hypocrites, les cigares du pharaon, le lotus bleu, le sceptre de Toka, l'étoile mystérieuse. C'est quoi cette étoile? Chut, c'est mystérieux. Puis je vous passe Objectif Lune, les sept boules de cristal. cristal et les bijoux de la Castafiore. Hein.
Tu profites de l'absence d'Albert, c'est pas cool, tu profites.
Il est pas là. Non, mais c'est vrai, Titeuf, c'est un ado comme les autres, c'est pas un petit blond prétentieux. Titeuf, il a 10 ans, et à 10 ans, tes besoins sont simples, jouer, manger, être tout le temps dehors. Bref, Titeuf, c'est un labrador. À 10 ans, il comprend rien à la politique, et en même temps, quel enfant de 10 ans comprend la politique, à part les enfants de Fillon qui étaient déjà assistants parlementaires, mais sinon, c'est vrai. Titeuf, comme les enfants de son âge, il pense qu'à assumer, il est un peu naïf, il s'engueule souvent avec ses copains, utilise parfois des mots qu'on comprend pas. Titeuf, c'est aussi un peu un candidat de la télé-réalité. En tout cas, ça fait 25 ans que Titeuf existe. Il est toujours dans la même classe, il a toujours les mêmes potes, la même maîtresse. C'est un peu un député écolo aussi. En tout cas, merci pour le 20 sur 20 il y a 15 ans et je vous souhaite une bonne émission.
Merci.
La bande originale, le meilleur moment sur France Inter.
Il a vraiment fait. Ouais, il a envie de voir, évidemment. Zep a envie de voir l'explosion du titre.
Est-ce qu'on peut se moquer un peu?
Mais bien sûr qu'on peut se moquer. C'était une époque où je voulais faire dessinateur. J'avais fait tous les persos. Franchement.
Ah oui, non, mais t'avais dit chaque personnage.
Ben oui, parce
en mettant,
que, alors, je rappelle qu'en 2002, Internet n'était pas tout à fait au point. Donc, du coup, les impressions des personnages.
T'avais décalqué, t'avais fait comment?
Non, j'avais pas décalqué. Non, Zep peut le voir.
C'est dessiné, c'est vraiment.
Mais dans quelle branche tu peux faire des dessins comme travail?
C'était
dans une école spécialisée. Ah, d'accord.
En on était en France.
Oui, d'accord.
Et à l'époque, pas en Suisse. Voilà,
non,
c'est voilà. Marina. Ouais,
non, parce qu'il y a un petit explicatif pour chaque personnage. Ouais, bon, il y a par exemple Ramon. L'explicatif, c'est Ramon.
Tout est dans le nom.
Mais voilà, c'est ça. Mais ouais, typo et tout. Non.
Et non. Et surtout, alors, je tiens à remercier les éditions Glénat. Parce qu'on l'avait, on les avait appelés avec, avec ma mère. Et,
la prof,
et ils nous avaient envoyé
prof...
un gros dossier de presse et tout. Et Internet n'était pas aussi développé et ils nous avaient beaucoup aidé à l'époque.
Voilà, bah c'est cool de le reconnaître.
Bah oui, c'est vrai.
Mais ça doit, et honnêtement, ça doit faire quelque chose. Tu dois être pas, tu fais de la vanne évidemment, tu fais le coq et ainsi de suite. Ça doit être super émouvant de, d'être. Ah, c'est mais... la première fois que vous rencontrez avec Zep.
Ah oui, bien sûr.
Ouais. Alors, c'est au fait quel effet, Zep?
Non,
non, mais ce qui est drôle, c'est de voir que les BD que j'adorais gamin sont devenues très grandes aujourd'hui. J'avais vraiment deux passions, les profs. Qui est devenu deux films de Pika et Rock et Titeuf de Zep et de le rencontrer aujourd'hui, ouais, non, c'est très chouette.
Ah non, ça doit faire quelque chose de très particulier. Titeuf se devient aussi une application. Il y a une émotiteuf, c'est ça?
Ouais, ouais.
Racontez-nous, on peut télécharger
des emojis ouais. De Titeuf qui bouge une oreille, une mèche, un pied. Voilà.
Non, mais il y a combien de dessins d'expression possibles?
Il y en a une vingtaine, je crois.
Quand même.
C'est gratuit.
C'est bien. Ouais.
Et Zep, avec le succès que connaît Titeuf, c'est le 15e album, ça se vend mais de façon complètement incroyable. Pourquoi vous faites encore de la promo? Vous n'êtes pas lassé de la promo? Je me disais, vous pourriez très bien.
Mais tais-toi, je viens surtout. Comment on fait l'émission?
Mais il voulait faire la grâce.
Non, mais je viens ici parce qu'il y a des madeleines en fait.
C'est ça. Non, mais j'imagine.
Madeleine Inter.
C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de faire de promo pour que ça marche. C'est ça qui est génial. Donc vous venez vraiment. C'est
non,
pour
mais
le
les dessinateurs, ça, ils adorent. En fait, on est tout seul toute l'année dans notre atelier. Au moment où c'est le moment de l'année où on sort de chez nous, on est hyper content parce qu'on voit partout et les gens nous parlent et on se dit c'est génial parce qu'on a tous commencé à faire de la bande dessinée parce qu'on était un peu renfermés, on parlait à personne. Donc on se lâche. Mais on me ramène chez moi d'ici 2-3 jours et c'est fini. Hein. Vous ne me voyez plus pendant une année.
Est-ce qu'il y a des planches brouillons, entre guillemets, des histoires que vous avez commencées parce qu'elles étaient collées à l'actualité, soit, je sais pas, sportive, politique ou mondiale. Et puis après, vous avez dit non, ça ne le fait pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de déchets et de sélections dans votre travail?
Ouais, sur un Titeuf, je fais environ 100 pages, une centaine d'histoires et j'en garde une quarantaine.
Et qui choisit avec vous?
Alors j'ai mon éditeur qui trie avec moi, mais j'évite d'avoir 15 personnes qui donnent leur avis. Ouais. Et justement, le fait qu'il y a beaucoup de déchets, si je demande à tout le monde va me dire que celle-là.
Mais alors quelle est la limite? Est-ce que la limite est dans la décence? Est-ce que d'un coup vous êtes lâché sur une blague un peu trop trash et on vous dit non, ça c'est trop dur? Ou est-ce que la limite c'est l'actualité? Avec ça sera dépassé, le temps d'imprimer, distribuer le livre, on n'en parlera plus, il faut pas partir sur ce sujet?
Alors c'est jamais la décence en fait. Ça.
Non, vous m'assurez.
C'est plus la manière de composer l'album, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'album, je me dis bon, mais il y a trop d'histoires sur l'actu, par exemple, ou il y a trop d'histoires sur tel thème, ou il y a beaucoup d'histoires potaches sur des histoires de paix, donc je vais peut-être pas mettre celui-là, même si je l'aime beaucoup.
C'est une question d'équilibre.
C'est l'équilibre du bouquin. Mais non, il y a jamais de décence parce que pour moi, Titeuf, il a le droit de tout dire. Il a un âge où il n'y a pas de raison qu'il se censure lui-même.
Et il y a une progression quand je parlais de la lecture verticale page par page, chaque sketch ou histoire ou gag, voilà, à sa vie indépendante. Et puis il y a du début jusqu'à la fin. Donc il y a un ordre qui fonctionne et des aérations qui sont nécessaires comme des planches sans bulles, sans dialogue.
Exactement. Ouais, c'est vraiment le
comme un interlude, ouais.
C'est la composition de l'album, c'est hyper cool parce qu'en fait moi je dessine mes pages dans le désordre et je continue à en écrire tout au long de l'album. Ça fait qu'à la fin de l'album, il me reste genre 3 pages à dessiner et j'en ai 40 à choix. Donc là, c'est le pire moment. Mais la composition, ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire l'ordre dans lequel succèdent les pages, c'est vraiment le bon moment. Parce que c'est là où on donne la couleur de l'album. C'est là où on va donner le rythme, ça va marcher ou pas marcher.
Et vous en faites quoi alors des pages que vous mettez pas dans les albums?
Monsieur veut récupérer les
pages. Non, est-ce que vous les stockez? Vous dites c'est pour le prochain?
Alors en fait, celles que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il y en a plein que j'enlève, parce qu'il y a aussi des versions 2, 3, 4 de certaines histoires. Mais les 10 qui me crèvent le cœur de ne pas dessiner à la fin de l'album, je les mets dans une pochette qui s'appelle Titov 16. Mmh. Et comme ça, je me dis, j'ai déjà le début de l'album. Donc quand on me demande l'album 16, je dis, j'ai déjà 10 pages. Après, généralement, quand je commence l'album suivant, je les jette. Ouais. Parce que elles correspondent au moment où j'ai fait cet album-là, j'ai pas envie de les reprendre.
Vous travaillez papier-crayon ou plutôt ordinateur, palette
Papier, ouais. Papier,
il faut ce contact, c'est physique aussi? Au crayon, au papier.
Oui, puis en fait, sur une tablette, on essaye de reproduire ce qu'on fait sur du papier. Donc, c'est bien si vous êtes en voyage, mais enfin, quand on est chez soi, c'est plus pratique de dessiner sur du papier.
Et la taille, est-ce que vous dessinez sur une...
C'est plus grand, c'est format A3.
C'est toujours plus grand. Chaque carré est une page.
Non. Ah. Une page A4 et une page A3. Donc c'est le double
d'accord,
du format.
D'accord.
Mais c'est pas de plus en plus grand d'album en album. Par contre, je vais me tenir de plus en plus loin de ma page.
Et le dessin de Titov a énormément évolué en 25 ans. Au début, il était plus.
Il était mal dessiné, faut vous dire.
Non, mais c'est vrai, j'ai ramené le tome 1. Et déjà, c'était en noir et blanc à l'époque. Et je te jure que le.
Non, mais tu blagues ou t'as ramené le tome 1?
Non, mais bien sûr, je l'ai ramené. Mais regarde, le Titov d'il y a 25 ans.
Il était un peu pointu.
Ouais, c'est bien la radio comme moment là.
C'est pratique. Ouais. Franceinter.fr.
Mais donc on a un gros zizi, on est d'accord sur la pochette.
Oui.
Non, sur la couverture. Il tire sur son pantalon.
Et c'était en noir et blanc.
C'était en noir et blanc.
C'est fou ça. Ouais, j'avais zappé. Ouais, moi aussi. Ouais, j'avais zappé.
Ouais, mais vous bossez pas.
Entre temps, on l'a refait en couleur celui-là.
D'accord.
Mais
c'est pas vous qui coloriez. Il y a quelqu'un
jusqu'au 10e album, c'était moi et j'ai un coloriste Nob qui fait toutes mes couleurs depuis 5 albums.
Ouais, parce qu'il y a des ambiances aussi en fonction de l'histoire.
Je ne le ménage pas.
C'est comme un directeur photo au cinéma, c'est-à-dire qu'il y a la couleur fait l'humeur.
C'est un peu notre musique en fait. Comme on n'a pas de bande originale justement, la couleur fait créer un petit peu l'ambiance de la page.
C'est Zep qui le dit. Zep signe ce nouveau Titov, le 15e, pour fêter les 25 ans de ce petit garçon à fond le slip. C'est le titre, c'est chez Glénat. Et c'est un bonheur à lire. Et puis ça donne aussi à réfléchir, c'est ça qui est très agréable. Le plaisir de recevoir Zep, c'est ce que vous avez ressenti, Leïla,
oui,
quand on vous a annoncé sa venue.
Et quand je pense à vous, Zep, je pense forcément un peu à lui et à ça.
Quoi, les grandes valeurs de la République?
Liberté, égalité, fraternité. En France, on a la liberté de dire ce que l'on pense. On a la liberté de faire le sport qu'on veut, la musique qu'on veut, et même de croire qui on veut.
J'ai vu sur Internet qu'une météorite allait désintégrer la Terre. Alors c'est plus la peine de réviser.
Mais on a aussi la liberté de penser, c'est-à-dire de ne pas croire ni faire n'importe quoi sans se poser de questions.
La République, c'est tous ensemble. Eh ben en fait, la Tour Eiffel, c'est un alien géant.
Voilà la puissance de Titov pour faire passer des messages. Titov choisi pour une campagne gouvernementale, faire passer ses valeurs de la République, l'égalité, la liberté, la fraternité. Ça, c'est une responsabilité qui est pas anodine pour un dessinateur de.
Du coup, je suis un peu dégagé.
Oui, non, pas du tout. Non, justement, pour le dessinateur, pour le papa de Titov.
Mais on sollicite souvent avec Titeuf pour des causes de toutes sortes. Alors là, c'était assez drôle, c'était des spots très très courts, mais effectivement, c'est un projet gouvernemental, donc il y avait beaucoup d'intervenants. Enfin, c'était un long travail.
Ouais.
Et puis on est passé de spots qui faisaient 3 minutes à des spots qui faisaient 15 secondes. Donc, moi, je suis assez content du résultat. Je trouvais ça assez marrant. Ce sont des petits dessins animés qui ont été diffusés ce printemps, je crois.
Et il y a eu handicap international, si enfin vous êtes
handicap, cette année aussi. J'ai travaillé aussi avec justement une association qui fait de la prévention contre la pédophilie. Il y a beaucoup, souvent on me demande sur les sujets casse-gueule de venir avec Titeuf. Alors je fais pas la même chose que ce que je fais dans les albums, parce que là il y a quand même une mission qui est de transmettre un message, ou enfin de donner des pistes, agiter des warnings pour que les enfants fassent attention. Mais par contre, le fait de rencontrer des gens qui travaillent dans ces domaines-là, de rencontrer des usagers de ces associations, ça, généralement, ça débouche sur une histoire ou plusieurs histoires. En l'occurrence, c'est l'histoire sur la pédophilie qu'il y a dans l'album. Elle découle de ce travail que j'ai fait avec l'association, qui là est plus institutionnel, où il faut déconner autour d'un message qui est quand même sérieux.
C'est impossible pour vous, par conséquent, de refuser d'aider à véhiculer un message et des valeurs, vu ce que représente maintenant Titeuf pour les enfants?
Enfin, j'en refuse plein, parce qu'on m'en demande un peu tous les jours avec Titeuf, mais j'essaie chaque année de faire une ou deux campagnes avec Titeuf. Ouais. Si je pense que ça peut... Enfin, que le personnage peut amener quelque chose. Si c'est juste pour qu'il dise tcho à la fin, je ne sais pas, mais je trouve que c'est un challenge intéressant.
Ouais, parce que vous intervenez sur l'écologie.
C'est une vraie générosité aussi.
Ouais.
Faut quand même préciser ce côté bénévole, et puis d'être
personnage
utile
au service de tous.
Formidable.
Ouais.
Ouais, vous êtes un mec bien, finalement, parce que comme ça, quand on vous voit, on a des doutes. Et au fond, si on gratte un peu, il y a un cœur.
Il y a du bon.
Ouais, il y a du bon.
Il a un cœur lui aussi, comme Titeuf. Mais c'est vrai que je trouve qu'à chaque fois, c'est très efficace, c'est simple, et ça vaut, je crois, toutes les campagnes de pub, pseudo-clip ou pseudo-discours moralisateur, et ça marche aussi, comme le disait Nagui tout à l'heure, pour les grands aussi.
Mais vous avez une responsabilité.
Non.
Si.
Si.
Mais arrêtez de mettre la pression.
Quand on porte des valeurs et quand on fait ce bénévolat et que on défend des causes, forcément vous les portez vous-même ces valeurs et vous les défendez. Mais après, dans la fameuse phrase, est-ce qu'on peut rire de tout, comment rire de tout, avec qui, et ainsi de suite, vous avez cette même responsabilité dans les albums où vous dites, je suis totalement libre et je peux péter un câble ou les assis du slip.
Mais je peux péter un câble, mais c'est Titeuf qui pète un câble. Du coup,
c'est moche de vous abriter derrière un enfant. C'est très très moche.
Et je dépasse un peu sur les côtés. Mais pour moi, ces colères ou ces coups de gueule sont légitimes. Parce qu'il réagit assez sainement. Quand je dessine les albums,
Titeuf,
je me dis pas.
C'est vous. C'est clair que c'est un autoportrait, c'est autobiographique.
Ouais, mais je viens pas comme un adulte en disant voilà ce que j'ai envie de faire passer comme message. Même la page sur l'IVG. Moi c'est clair que je trouve que ces manifs sur l'IVG, je suis contre. Mais j'ai pas envie de fustiger les gens qui le font, d'en faire les méchants de l'histoire. Je trouve que c'est pas intéressant.
Même chose avec pauvre Momo aussi, pauvre Momo, ce gamin dont le dieu interdit tout.
Salafiste, voilà. Mais j'ai plutôt envie que ce soit un personnage sympa.
Salafiste, la question est posée d'ailleurs. Est-ce que c'est ceux qui mangent
salamiste.
Il a pas le droit de manger salami.
Il a pas le droit de manger salami.
C'est un peu dur. Mais ouais, je trouve que on a une, parce qu'il y a aussi un truc dans le dessin d'humour, le dessin satirique qu'on fait depuis des siècles, qui est ce dessin où on choisit un tartuffe et on se fout de sa gueule tout le temps et on rit, donc on est dans le bon droit et la personne dont on se moque, c'est le mauvais.
On l'humilie un peu aussi.
On l'humilie. Ouais. Et je trouve que ce dessin humoristique-là, il m'intéresse pas tellement. J'ai l'impression qu'on fait ça depuis une éternité et qu'à part mettre les gens dos à dos, ça fait rien bouger. Et nous-mêmes, on se remet pas en question parce qu'on se moque toujours des mêmes. Et voilà, il y a une forme d'immobilisme.
Mais ça, c'est une analyse de comment faire une vanne, et plus du tout une question de dessin ou de Titeuf. C'est juste
un
point de vue d'auteur.
Autour de l'humour. Ouais, ouais. Ouais. Mais le dessin utilise beaucoup ça, et je trouve qu'on peut faire autre chose. On peut raconter une histoire avec des personnages. Enfin, Titeuf est pas moins ridicule que Momo le salafiste, en l'occurrence.
Faire une vanne sans blesser. J'espère que Daniel Morin va lire Zep donc chez Glénat. Titeuf à fond le slip.
Parce que vous voulez dire.
15... ça commence. C'est le 15e volume.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
C'est Kimber Rose avec I'm Sorry et c'est en live.
I'm back to my old ways. I don't know what happened to this. Maybe it was just me. Maybe it wasn't meant to be. I never meant a lot to you. I really thought I could love you. The way this woman do, I really thought I could see this through to you. I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on you. Guess I'll just pack it, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on you. I'm sorry, boy, I'm sorry. I'm sorry, boy, I'm sorry. I'm back to my old place. I don't know what to scar. Maybe it was just time. Maybe we'll both be fine. Keep calm with this. I never meant to treat you bad. God knows I'm just a child. I never want to treat you bad, 'cause you treat me fine. But feeling said bye, I'll see you around. But now's just not the time. I know you'll be okay. I hope you'll be okay. I know you'll be okay.
Voici Marina Rollman et son humeur.
Merci, merci, restez assis. Alors voilà, la semaine dernière, c'était ma première chronique sur France Inter. Waouh, ça nous rajeunit pas. Une semaine déjà.
Comme
ça
le
file.
Temps passe vite.
C'est fou, Leïla, je t'ai connue, t'étais
jeune.
Bah t'étais là, non? Et après donc cette première chronique, Nagui m'a dit, enfin, il m'a fait dire par son assistant, parce que bon, pour les auditeurs, je résume, mais en gros, la première année, on n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. Après, il y a un système d'offrande de gibier.
C'est toi qui n'as pas voulu me donner ton 06. Arrête.
On dit ça. Enfin bon, toujours est-il, il y a un petit peu un protocole. Voilà. Donc il m'a fait dire, franchement, pour une première, c'était pas mal. Bon, voilà. Donc moi, en entendant pas mal, bah, j'ai compris que j'étais virée. Hein. Non, mais parce qu'il faut se rendre compte d'un truc, c'est que non seulement je viens de Suisse, mais de Genève, région protestante. Donc voilà, s'il y a bien un truc pour lequel on est connu, c'est le fait qu'on n'exprime pas nos sentiments. Hein. Enfin, on est connu pour ça et puis pour avoir blanchi lors des nazis. Mais là aussi, il y a une espèce de petite pudeur autour de ça que je trouve pas inélégante. Enfin voilà. Mais donc pour moi, ce pas mal, ça résonnait comme un truc super violent parce que je suis pas du tout quelqu'un de frontal dans les conflits. Moi, si on me roule dessus, c'est moi qui m'excuse. Oups, pardon, je crois que j'ai mis mon pied sur votre voiture. Enfin voilà. Et donc suisse. Ça, bah oui. Mais pour ça, la France, c'est génial. C'est super pour moi d'être ici. C'est une école de vie. Hein. Paris, t'arrives dans un restaurant. Bonjour, un jus de papaye, s'il vous plaît. Enculez-vous. Et ben faisons comme ça. Très bien. Mais voilà. Donc moi, j'ai
dans l'adresse du resto quand même.
Il y en a beaucoup.
Est-ce mais donc, que je voilà. peux avoir de la papaye, s'il vous plaît, place du café.
Mais donc voilà. C'est bien. Vous êtes habitué. Vous êtes rompu à l'exercice. Moi, j'ai pas encore l'habitude. Donc quand j'ai entendu ce pas mal, bah j'ai fait mes cartons. Et là, le producteur de l'émission, il m'a rappelé. Il m'a dit, mais non, pas du tout, on veut que tu restes. D'ailleurs, Nagui aurait voulu t'appeler à ma place, mais il pouvait pas parce qu'il connaît pas ton prénom. Enfin voilà. Toujours est-il, comprends que quand on t'a dit c'est pas mal, c'est parce que voilà, c'est juste que c'est vraiment ce qu'on ressentait. Voilà. Et c'est là que j'ai compris pourquoi votre pays partait complètement en couille.
Le pays ?
Le pays.
Le pays des papayes.
Voilà. Pourquoi ce pays partait complètement en couille ? Enfin, c'est Daniel qui m'a dit ça. Ben, c'est parce que tout le monde s'épanche comme ça. Si on commence à dire ce qu'on ressent à ses collègues, je veux dire, qu'est-ce que prochaine étape quoi ? On dit je t'aime à ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va former le prochain De Gaulle. C'est une certitude. C'est vrai. Si on regarde les cultures qui se portent bien, ben il y a que les pays qui se taisent qui marchent. Regardez les Anglais par exemple. Des siècles de flegme comme ça, à garder bien tous ses sentiments au chaud derrière des litres de gin et 3 cm de tweed. Ben c'était les maîtres de l'univers. Tout allait bien. Et voilà, il y a un an, David Cameron, il leur a dit bon, franchement les gars, j'aimerais vraiment savoir ce que vous ressentez vraiment pour de vrai au fond. Et ben paf, coup sur coup, Brexit. Puis, séparation de One Direction. Et enfin, l'équipe nationale se fait éliminer en 16e de finale de championnat d'Europe de foot par l'Islande. Les Islandais, il n'y en a pas un qui fait ça à plein temps, je veux dire, ils sont tous fumeurs de baleines ou druides, et ils ont battu l'équipe du pays qui a inventé le foot. Non mais, enfin, voilà, tout fout le camp. Pareil, le Japon, par exemple. Pays d'intelligence, de raffinement, de beauté, de gens de petite taille. Bon, voilà. Le mot d'ordre, c'est tenu... Non mais moi, je le dis du haut de mon 1m60, hein, c'est des gens très bien proportionnés, je trouve. Le Japon, voilà, les mots d'ordre, c'est quoi? C'est tenue, civisme. Ils leur ont juste dit, en revanche, dans la pornographie, vous faites ce que vous voulez. Bah voilà, résultat, il n'est question que de tentacules et de strangulation de mineurs. C'est là qu'on voit les vertus du corset, du calvinisme, une forme de sérieux. Et en même temps, je me dis, on vit des temps un peu incertains. Les deux types les plus mal coiffés du monde ont décidé de s'embrouiller comme deux Anglais bourrés à la sortie d'une boîte de nuit espagnole. Évidemment, ça pourrait finir bêtement en guerre nucléaire. Hein. Et alors, je sais que normalement, si la Corée du Nord et les États-Unis entrent en guerre, ils passeront par le Pacifique. Mais tu sais jamais. Tu sais, un embouteillage, Kim qui veut s'arrêter pour un sandwich, Mélania qui a mal au cœur dans l'école, et bah paf, ils finissent par mettre sur la gueule à Créteil. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut commencer à se faire à l'idée qu'on va peut-être tous mourir. Et alors, tout à coup, tu vois, quand on se dit ça, on se dit que tout latin désorganisé, sentimentaux, peu regardant sur l'hygiène que vous soyez, eh ben vous avez peut-être raison. Faut se dire ce qu'on a sur le cœur. Alors voilà, ce matin, je voulais vous le dire, les amis, je vous l'admets, je vous trouve vraiment.
Tu nous trousses volontiers, écoute.
Mais avant ça, je voulais vous admettre que je vous trouve vraiment tous pas mal, quoi.
C'est gentil. Christina.
Rolmina Molman.
Marina Rolman. Merci.
Le meilleur moment de la bande originale avec Nagui.
Vous voyez, Mathieu, nous aussi, on est une équipe. Hein.
Ouais. Soudée, comme ouais, ça, une famille.
Mal, elle est pas mal, elle est pas mal.
Une famille. Vraiment. La bande originale de Mathieu Amalric, avant de recevoir cette personne qui a beaucoup compté d'ailleurs pour vous aussi dans le travail, hein, Roland Romanelli, vous avez bossé.
Comme fantasme, et puis j'ai eu la chance de le rencontrer.
On va en parler avec lui tout à l'heure, mais d'abord, ce que vous écoutiez Mathieu Amalric dans les années 70, c'était...
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть.
Вы хотите дire le titre, parce que moi je suis pas capable. Hein.
C'est les chevaux.
Non, mais en russe.
Pony.
Tout simplement.
Oui, il y en a un peu plus loin.
Ah ouais,
après,
pensais,
j'ai oublié le russe. Je suis désolé.
Vu le nom, parce que vous avez vécu 4 ans à Moscou, après avoir vécu 3 ans à Washington, en suivant votre papa. Vous avez retenu quoi de la culture moscovite?
C'était sous Brejnev. Ouais. Et justement, ce chanteur qu'on entend, Vladimir Vysotsky, qui était acteur, le régime acceptait qu'il soit acteur, mais il s'est mis à exprimer des choses. Il pensait même pas être chanteur. Il avait une guitare. Il a commencé à dire des choses comme un barde. Et ça a bardé parce que, c'était politique.
C'est quoi, oui.
Ouais. Mais pas tout à fait. Il s'est débrouillé. Mais, ses concerts étaient interdits. Ma mère qui était au courant de tout. C'est des concerts qui pouvaient être annoncés une heure avant. Et puis un jour, elle m'a emmené comme ça et j'ai vu cet homme. Chanter ça, vous avez vu, c'est juste ça. Oh, c'est le grand amour de Marina Vladi aussi, Vysotsky. Elle a écrit des choses magnifiques sur cet homme. Voilà, et pour moi, c'est la Russie où j'étais à l'école américaine.
C'est là où vous avez appris à jouer du piano.
Et voilà.
Et j'ai joué du piano les conservatoires
russes. Vous évoquiez la musique tout à l'heure comme ça, de façon un peu distante, en disant voilà, la musique c'est Jeanne qui s'en occupait, mais vous avez une vraie formation.
Oui, mais totalement abandonnée parce que j'ai sombré dans le cinéma, parce que j'étais feignant et je n'ai pas continué.
Vous regrettez ?
À avoir cette professeure russe Tamara Borisovna qui me notait chaque leçon, qui quand elle s'était cassé le bras, elle est pour continuer chez elle. C'était rigoureux. Et arrivé à Paris, je me suis relâché. Et non, la musique, c'est impitoyable.
Je voulais vous dire, pas, là,
vos mains ressemblent un peu à celles de Serge Gainsbourg. Je ne sais pas si on vous l'a déjà
dit.
Bon,
alors ça me touche.
Non, mais vraiment.
Oui.
Une ressemblance des mains. On n'en parle pas assez, d'ailleurs, les ressemblances des mains.
Mais ça, Emmanuel, c'est rare. Ouais.
Mais non, c'est vrai.
Et le fait d'avoir grandi un peu à Moscou, un peu à Washington, quand on est enfant comme ça, qu'est-ce que ça donne ensuite? Ça fait de vous un enfant particulier, j'imagine?
Enfant, on ne se rend pas compte que c'est spécial.
Et en grandissant.
C'est tout à fait normal. Et puis de même de passer... c'est quand même, on est dans les années 70, oui. De Washington à Moscou, me paraît. Vous ne voyez pas...
C'est fou.
On est avec des enfants. Et c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Peut-être que j'ai pas eu forcément le tropisme du voyage. Cette folie du voyage, du coup. Mm-hmm. Il est devenu plus intérieur.
Votre papa était correspondant?
Oui, il était correspondant. Et ma mère aussi, il travaillait pour Le Monde.
Ouais.
Correspondant pour Le Monde. Et ma mère était critique de théâtre, critique de livres.
Est-ce que ça fait qu'à la maison, il y avait des soirées, des grandes tablées comme ça, où le tout pensant, j'allais dire, venait se réunir et échanger des idées en fonction des endroits où vous trouviez, que ce soit Paris, Moscou,
Washington. Il y a eu des choses comme ça, oui. Mais après coup, je m'en suis rendu compte. Mes parents, par exemple, étaient devenus très proches de Lili Bric, qui était un des grands amours de Mayakovsky, donc la sœur d'Elsa Triolet, très vieille dame, qui me signait des photos d'elle jeune sur la plage avec Mayakovsky en maillot de bain et qui me disait « Ah Mathieu, j'ai gardé cette photo ». Bon, voilà, oui, mais ma mère surtout avait une immense curiosité pour les dissidents.
En 1984-85, vous écoutiez...
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas.
Mireille Sellé, c'est Chico Buarque, une chanson qui s'appelle Construction. Le chantier, les échafaudages, et ça c'est vraiment les premiers courts-métrages, parce que j'ai fait mes premiers courts-métrages avec mon meilleur ami, mon grand ami, qui s'appelle Marcelo Teles, qui est arrivé du Brésil. Et même j'ai des courts-métrages, il y a une scène et on faisait des chantiers, en fait on gagnait notre vie en faisant des chantiers de peinture, et il me traduisait les chansons, et c'est comme ça que j'ai découvert Veloso et Chico Buarque. Ça, c'est une chanson.
Vinicius de Moraes, en fait, tous ces, voilà. Tous ces, ce sont des poètes, hein, c'est plus que des chanteurs ou des interprètes. Et puis, c'est pas. Culturellement, ils sont extrêmement forts, ils ont une influence, ils ont rayonné sur le monde de la musique mondialement, pas uniquement musique brésilienne.
Ça commence, il va y avoir des cuivres qui vont rentrer, ça sort de. Voilà. Et puis, c'est une chanson. Chico Buarque raconte que ça vient de Godard, c'est-à-dire qu'en fait il change le dernier mot de chaque couplet à chaque fois, c'est-à-dire il a aimé cette femme cette fois comme si c'était la dernière, il a embrassé sa femme comme si c'était la dernière et chacun de ses fils comme si c'était l'unique, et puis le couplet d'après c'est il a aimé cette fois comme si c'était l'unique, il a embrassé sa femme comme si c'était une timide. Enfin, il change les mots à chaque fois. Voilà, c'est magnifique. Il embrasse sa femme comme si c'était l'unique. Donc ça change.
Hein.
C'est un homme qui va au chantier, les échafaudages sont fragiles et. Il tombe de l'échafaudage et il s'écrase sur le.
Mais on est dans une BO de film aussi, hein. C'est un.
Ah oui.
À la fois le texte est comme un script.
C'est du Lalo Schifrin, c'est vrai. C'est il y a une influence. les cuivres. Non, ils ont été absolument. C'est fou tout ce qu'ils ont inventé. Et ça, c'est mon ami Marcelo Teles. Voilà, que j'embrasse.
Faut quand même avoir beaucoup d'imagination et de courage pour faire une chanson qui est pour thème le BTP.
Mais vous avez commencé votre carrière d'acteur dans Les Favoris de la Lune, réalisé par Ota Ioseliani.
Absolument.
Là, vous aviez quoi? 17 ans.
17 ans. Oui, mais pareil, encore la Russie, encore les sortes de dissidents. Ota Ioseliani, géorgien, et. Mon père adorait se bourrer la gueule avec lui, et c'est un homme qui a fait des films sublimes et très pas du tout ce que le régime aurait voulu.
Mais vous deviez être surveillé tout le temps, parce que Harry Van Washington, en pleine guerre froide, journaliste.
Absolument.
Ah oui, là,
doublement journaliste, papa, maman, t'imagines. Ouais, ouais.
L'appartement du Monde était toujours le même. La secrétaire de mon père, elle était du KGB. On le savait. Mais une fois, quand même, je me souviens, je me suis énervé, j'ai claqué la porte de ma chambre, bing! Qu'est-ce qui est sorti du mur? Un micro. Et bon, ben, ça faisait partie du.
C'est complètement fou, je veux dire, vous en avez tiré une histoire, vous avez raconté ça?
Non, tout ça, c'est après coup, parce que sur le moment, vous voyez, c'est normal.
Et à cette période-là, 84, ça c'est votre premier rôle dans Les Favoris de la Lune. Ensuite, l'idée c'est de se dire, je vais passer à la réalisation.
Ah oui, de voir Otar, qui est un cinéma, si vous voulez, qu'on peut un peu comparer à Tati, c'est-à-dire c'est des figures comme ça qui passent. C'est pas psychologique. Il dirige au sifflet. Un coup de sifflet, tu marches. Deux coups de sifflet, tu t'arrêtes. Trois coups de sifflet, tu prends la bouteille. Et après, il refait tout le son. Après, comme faisait Fellini. Et d'accord. Les Russes à l'époque. Et donc, ça m'a plutôt donné envie de jouer au train électrique comme lui, quoi.
En 1996-97, vous écoutiez.
Ça, c'est très particulier.
C'est dingue.
Oui.
C'est dingue, parce que là, évidemment, il y a le body talk qui est très à la mode. Je pense
Camille,
à Camille.
Bah oui, c'est de proto-Camille, nourri de ça, ouais.
C'est Luciano Berio. Luciano Berio, compositeur italien, c'est quelque chose qu'il avait écrit pour sa femme, Cathy Berbarian.
Merci quand même.
Hein d'accord. C'est les années avec des Pleuchins, 96, 97. Okay. Et je découvre quelque chose à travers lui, le rap, d'abord. Parce qu'il vient de Roubaix, il connaît tout du rap. Et la musique étrange. Là, c'est un disque qui va sortir le 22 septembre, écrit par une autre Barbara, enfin, chanté par une autre Barbara, qui s'appelle Barbara Hannigan, qui est une soprano chef d'orchestre.
Je tiens à préciser que c'est votre disque personnel hein, qui, que nous diffusons là.
Oui, parce qu'il vient de sortir, comme ça. Et dans ses BO d'Arnaud, c'est vraiment parfois des choses comme ça, des gouttelettes, des cris, des...
L'écriture d'un film passe aussi, alors, à part Barbara, mais je veux dire, de n'importe quel film pour vous dans l'histoire du cinéma, la bande originale du film est un élément fondateur, essentiel, les musiques qui s'y glissent, oui. Pourquoi à tel moment un violon, pourquoi rien à
voilà,
tel autre moment.
Voilà, pourquoi rien. Oui, c'est bien aussi, bien sûr. Oui, oui. Peut sortir d'un film des fois lorsque la musique n'est pas ressentie par la personne qui fabrique le film. Oui.
Et Arnaud Desplechin vous entraîne là dans cette découverte musicale et aussi d'une autre façon dans son cinéma à lui, parce que vous allez avoir un vrai rapport de fidélité là en 96-97, c'est Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Et je crois que vous vous souvenez parfaitement du moment où Desplechin vous appelle pour vous dire que le film va être fait avec vous.
Ah oui, je me souviens, oui.
Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là?
Parce que directement, acteur, c'était... il était en train de te proposer de jouer pour la première fois de ta vie, t'as jamais joué, j'avais jamais joué. Ok, je le fais, mais je fais un film à moi après, comme réalisateur. Pas sombrer dans la belle vie d'acteur.
Et c'est un film qui va vous permettre de gagner le César du meilleur espoir masculin. Et avant même de recevoir ce César, vous dites, il faut pas que je tombe dans le piège de l'acteur, il faut que je devienne réalisateur.
Descarnot au téléphone me dit, parce que je suis tombé en cinéma en voulant fabriquer des films. Et voilà, et que, ok, acteur, mais prendre le métier d'acteur comme un métier manuel du cinéma. Comme un autre.
Et là, vous faites votre premier long, donc Mange ta soupe, ouais. Qui est un peu inspiré de votre vie, quelque part. C'est l'histoire d'un fils de passage à Paris qui arrive chez sa mère. Sa mère, elle est quoi? Elle est critique littéraire.
Ah oui. Maison mangée par les livres.
Voilà. Et il y a des livres partout. Il y a la même.
Dans son lit.
À la place
du père.
À la place du père.
Absolument. Je me suis dit, comment je pourrais faire de la comédie avec cette tragédie-là? Ouais. La famille, c'est réellement de la tragédie, notre famille. Il y a des morts, il y a tout ce qui... Il y a des drogués, il y a tout.
Toutes les familles, toutes les histoires de famille sont une tragédie.
Oui, mais là, c'est bien. Et des fois...
Après, il y a des psys qui ont plus de travail dans certaines familles que dans d'autres. Mais ça, c'est autre chose.
Et du coup, c'était... Oh, comment transformer ça en... C'est le bal des vampires, à quoi j'ai pensé, vous voyez. Comme si c'était... ma mère... La mère serait un vampire et sucer le sang de tout le monde. Et moi, je me suis bien amusé.
Et vous avez du mal avec les livres, posséder des livres, avoir des livres, beaucoup de livres.
Et non, je reproduis le schéma familial.
Évidemment.
Il y en a partout.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre?
Mais voilà, c'est comme ça.
Mais alors, je vous en offre un juste rapidement.
C'est lequel?
C'est Barbara, forcément, chez Texas.
Trop tard, il avait le film.
Je me suis dit que vous avez peut-être un peu soupé, mais là, c'est toutes les photos de Jean-Pierre Leloir.
Qui sont
absolument magnifiques. Et je me dis que, bon, vous l'avez pas encore vu assez bien, si ça
merci
se trouve.
Beaucoup.
Tu parles.
Merci.
Il a bien ça fait un livre de plus. Voilà.
En 2005, encore un César, et vous écoutiez. Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. Alors à part évidemment l'autodérision sur Cohn, tout le reste est vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est finalement
c'est extraordinaire.
Extrêmement vrai. La géniale Brigitte Fontaine.
Je voulais chercher une Barbara, donc Barbara Hannigan, ouais. Et une Brigitte, puisque c'est le personnage. Et si on l'a appelée Brigitte, c'est en pensant à Brigitte Fontaine.
C'est vrai.
Et Roland, qui vient d'arriver, c'était quelque chose aussi qui nous intéressait beaucoup. Brigitte Fontaine et Barbara, qui se sont connues, qui font à la même époque des musiques qui s'éloignent l'une de l'autre. Mais elle commence à l'écluse avec des choses, en effet, qui viennent des chansons des années 30, quand on écoute les premières chansons de Brigitte Fontaine. Et quelque chose s'éloigne. C'est extraordinaire.
Alors avant de revenir sur Barbara et avec Roland Romanelli, je voudrais juste que nous parlions de Spielberg. Vous êtes imprégné par le monde du cinéma, vous aimez la troupe, vous aimez aussi la technique, vous parlez même de l'importance, et je trouve ça formidable, de la table régie, de la régie, du catering, de tout ce qui fait la vie sur un plateau. Et je suis entièrement
les
d'accord avec vous. Et
non
mais on voit même sur différents tournages d'ailleurs comment ça se passe par ce genre
très
de détails. Là,
complètement,
plus
complètement.
Que par l'écriture du scénar ou le casting. C'est tout ce qu'il y a autour et qui fait la vie. Qu'est-ce que vous avez appris au contact de quelqu'un comme Spielberg, où on dit Spielberg, on a l'impression que c'est voilà, que c'est immense et que qu'il n'y a aucune erreur commise à aucun degré. Est-ce que c'est le cas ou pas?
C'est le cas. J'avais peur. Hein. C'était la première fois que je me retrouvais sur quelque chose où le centre de Budapest était bloqué.
Pour Munich,
ouais. Et donc tout Paris, c'était Paris sur 360 degrés. Il vient, et donc...
Il a un sifflet.
C'est en son direct.
Il a un sifflet.
Non.
C'est en son direct.
Le scénario, il y a Tony Kirchner, qui a écrit Angels in America, qui est là, qui réécrit les dialogues au dernier moment, alors que toi, tu te dis... C'est en anglais, c'est pas ma langue. Et cet homme adorable, délicieux, qui aime tellement les acteurs, et qui arrive sans papier, et qui dit, bon, eh ben... Et en fait, vous êtes que deux, j'étais avec Eric Bana, lui et moi, on va voir comment on va faire. Bon, le décor est beau, c'est quand même bien que vous traversiez la rue un moment, on va voir comment on va faire.
Il improvise, vous voulez dire?
Je vous jure. Il invente, il dit, comment on peut faire? Et à la fin de la mise en place, je vous assure, comme Bana a aussi réalisé des films, il dit, oh, c'est chouette de bosser avec des réalisateurs. Et voilà, et hop, et le plan est lancé, et puis tout suit derrière, un mec. Et après, pour les plans serrés, il prend lui-même la caméra, il court, et il vide un magasin, parce qu'il a longtemps tourné en pellicule, en 35 mm, avec un grand camion.
On peut croire que, voilà. que vous êtes dans le...
C'était la même chose,
dans
finalement.
Le cinéma d'auteur, mais j'imagine quand vous avez fait un James Bond, là, dans James Bond, c'était un peu plus...
C'est les cascadeurs.
Plus storyboardé, un peu plus cadré, un peu plus que... Non?
Non, parce que ce qui était très étrange sur ce
James Bond-là... Ah, ça serait bien que tu sautes du pont et que ça explose. Allez, vas-y, on improvise.
On le tente. Finalement, saute là.
Oui. Avec les cascadeurs, on a beaucoup travaillé. Moi, c'est ça qui m'a le plus fasciné. C'est l'approche de la mort de la part de ces cascadeurs. Parce que, voilà, ça c'était...
Ils mettent leur vie en danger.
Ouf.
Et puis James Bond, c'est l'occasion aussi de découvrir qu'on peut vous voir comme un méchant. Parce que moi, je...
Oui.
Je vous ai trouvé très convaincant en méchant, mais je me dis, mince, un Malric méchant, mais non.
Et c'était en fait, la jolie idée de ce bien. James Bond-là, ouais. C'est qu'on arrive à une époque où en fait les méchants, on ne les voit plus.
C'est ça.
Ils sauvent la planète, ils s'occupent d'écologie.
Uh-huh. Quantum of Solace.
On en a des entreprises comme ça qui ont trouvé ce créneau. Donc ça, je trouvais que c'était très, très juste sur l'époque.
Un méchant d'un nouveau genre, ouais.
On dénonce dans les James Bond aussi, c'est politique.
Bien sûr.
James Bond est politique.
Ah oui?
Non, mais c'est
oui,
ça veut dire méfiez-vous des
Bond,
méchants. Ouais.
Chaque James Bond raconte quelque chose sur l'époque.
Ouais. Et Moonraker, alors, avec les dents?
La bande originale, le best-of, sur France Inter.
Vous êtes bien dans la bande originale sur Inter, et voici Mon cœur de Sandra Nkake.
Je reste prisonnière, prise au piège de tes merveilles. Écoute mon cœur, il t'appelle aussi fort qu'il le peut. Regarde un peu ma lueur, autant que tu veux. Et vole vers moi.
Le cœur de Sandra Nkake est venu battre pour vous dans cette bande originale sur Inter. Le meilleur de la bande originale, ça continue avec Leïla Kadrouboudadi, Daniel Morin, Tom Villa, l'info maltraitée par Tanguy Passureau et notre invité, nos invités Marina Foyce et en live Kimba Rose. Le meilleur de la bande originale, la suite, c'est parti. Marina Foyce avec ce film qui s'appelle L'Atelier, réalisé par Laurent Canté, et des comédiens qui sont pratiquement pour la première fois au cinéma, tous, autant qu'ils sont, ou alors j'ai raté quelques expériences peut-être?
Non, c'est leur premier film à tous.
Tout premier film, et on est dans ce cinéma-réalité à la Laurent Canté, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. La caméra est une caméra à l'épaule, ça bouge, c'est portable, c'est très naturellement joué. On a l'impression d'ailleurs que ce sont eux qui écrivent chacun leur partition de leur manière de jouer, et que ce ne sont pas des rôles appris par cœur.
Alors que c'est écrit, et ils sont vraiment des acteurs.
C'est
en fait.
Fou ça.
Oui, ils ont mieux qu'une nature, je pense qu'ils sont tous... potentiellement acteur, absolument.
Mais c'est aussi le talent de Laurent Canté d'avoir mis dans les dialogues des choses qui leur sont quotidiennes.
Oui, alors le scénario était très écrit. Après, il y a eu 3 semaines de répétition pendant lesquelles il s'est vraiment adapté aussi à leur langage. Et il leur a demandé il les a beaucoup écoutés. Et donc, il a adapté un peu le texte. Mais c'est vrai qu'eux, ils ont ce talent-là de faire croire que c'est de l'impro, alors que ça n'en est pas du tout.
Et c'est très découpé, parce que j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de plans, en tout cas sans tomber dans le plan séquence record du cinéma, mais on a l'impression que c'est vraiment des scènes de dialogue qui sont faites comme ça dans un jaillissement.
Oui, dans toutes les scènes de l'atelier, toutes les scènes de groupe en fait, on les jouait pour chaque plan et chaque prise, à chaque fois dans la continuité. Donc c'est des scènes qui durent 15 minutes, peut-être 10-15 minutes. Dans la continuité, ce qui permet vraiment aux acteurs de s'oublier à un moment, parce qu'on peut pas maîtriser 10 minutes de texte, 10 minutes de situation.
Il y a un peu d'improvisation quand même. Il peut y avoir des.
C'est-à-dire que quand il se passe des choses, on réagit, on est vivant, on n'est pas des momies. Mais c'est pas le but. C'est pas ce qui est cherché. C'est quand il a une manière de travailler qui est assez passionnante. D'ailleurs, il est très concentré juste sur le sens de ce qu'il fait, pas sur les à côté, les machins. Il y a un truc. Tout le monde cherche le sens de la scène. Enfin, je sais pas comment dire.
Est-ce que lui, déjà, en tout cas, Laurent, quand il vous a expliqué le film, vous a dit aussi ce qu'il voulait montrer ou démontrer, comme on l'a dit tout à l'heure avec Insa Sané, c'est-à-dire que le dialogue, que ce soit pour un atelier d'écriture ou pour autre chose, que le dialogue avait des vertus, ou de montrer le reflet de notre société avec une certaine incompréhension ou des clivages ou le regard que chacun peut porter sur l'autre.
Mais il n'a pas eu besoin de me l'expliquer, en fait, parce que ça existait dans le scénario. Puis je connais son cinéma, c'est un cinéma qui est quand même politique. Pas que, parce que dans le film, il y a aussi une fiction, il y a aussi du suspense, justement, l'espèce de on travaille sur un polar, mais il y a une dimension un peu thriller entre la rencontre, attraction, répulsion, machin. Il y a un vrai danger dans la rencontre entre les deux personnages, donc il y a aussi
entre Mathieu Lucci et vous, on sait pas d'ailleurs qui intrigue l'autre, qui attire l'autre, qui est séduit. Donc qui est qui, on le voit bien, mais on sait pas trop d'ailleurs s'il y a un jeu de séduction ou pas entre les deux.
Oh ben il y en a un, je pense, qui est pas du tout avoué, pas du tout conscient, mais il y a une espèce de tension érotique que pour le coup j'avais pas du tout senti à la lecture du scénario, parce que j'avais été très pris par le propos justement sur la nécessité du dialogue, la nécessaire considération qu'on doit à nos jeunes, leur donner le crédit, parce que l'écriture évidemment c'est quelque chose de complexant. Moi-même, personne n'écrit, on fait des photos, on chantonne dans nos salles de bain, mais enfin écrire c'est une discipline effectivement très élitiste et tout ça, mais l'écriture n'est qu'un prétexte pour leur dire en fait ton avis m'intéresse et avec tes mots à toi tu peux me dire quelque chose du monde qui va m'aider moi aussi, même si je n'ai pas ton savoir. Ta culture n'est pas une sous-culture, ta pensée n'est pas une sous-pensée, tu m'intéresses.
C'est simple, intéressant en fait. En tout cas dans le film, c'est qu'il y a cette vertu du documentaire, on a vraiment le sentiment d'apprendre un peu plus sur...
d'être en immersion au sein de ce même atelier d'écriture et de voir... moi j'ai beaucoup aimé cette relation entre vos deux personnages, Antoine et Olivia, parce que vous incarnez deux mondes tellement différents, et sentir qu'il y a une forme de fascination l'un envers l'autre, c'est impossible, c'est un avenir possible, c'est une communication possible en tout cas entre ces deux univers.
Oui, c'est ce que c'est en gros ce que dit le film. Il encourage le mélange, la communication, le dialogue, la confrontation. Et aussi c'est la beauté du collectif. On peut se trouver soit parce que justement parce qu'on est face à des gens différents, que la différence c'est l'inverse d'inhibant a priori si on sait à peu près qui on est.
Citons quand même Robin Campillo qui a travaillé à la télévision, c'est ça, il était
Campillo, il était monteur pour la télé, je crois. Mais en fait, ils se sont rencontrés Quentin et Campillo à la FEMIS, donc à l'école de cinéma, et tout de suite ils ont commencé à travailler ensemble.
Mais c'est lui qui a vu le premier cette idée d'atelier, en tout cas.
Lui qui en avait parlé à Laurent, ouais.
Et particulièrement à la Ciotat, c'est vrai que le décor est totalement dingue, ouais, avec ces grues qui ne travaillent plus vraiment et qui font penser à ces paquebots. L'histoire des paquebots qui, lorsqu'ils étaient jetés dans la mer, faisaient des raz de marée sur les quais, avec des documents d'archives en plus.
Des images d'archives, c'est super
bien,
ouais.
Super bien. Mathieu Lucci donc joue à vos côtés le rôle d'Antoine. Il y a Varda Ramache, Issam Talbi, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia, Julien
Doumbia.
Julien Sou, Mélissa Gilbert, Olivier Touré et Léni Sellam. Ça, c'est fait.
France Inter, la bande originale, le best-of.
Il est temps maintenant d'accueillir Tanguy Pastureau sur Inter. Tanguy, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron, mais pas beaucoup de sa femme Brigitte.
Oui,
Brigitte, j'aime beaucoup.
Brigitte Macron, c'est un mystère, un peu comme le monstre du Loch Ness, mais en moins visqueux. On la voit à côté de son mari, toujours souriante. On a plus vu ses dents en 5 mois que celles de Michel Sardou depuis le début de sa carrière. Elle est classe, elle s'habille bien. Si tout le monde était comme ça, Christina Cordula mettrait fin à ses jours en se coupant les veines avec une petite broche vintage hyper tendance. Brigitte, c'est la femme que j'aurais voulu être, élancée avec une petite jupe pour vous faire saliver, Nagui, puisque mon physique actuel ne vous fait rien. C'est à croire que vous m'avez embauché pour mes qualités professionnelles. Vous êtes malade. Si j'étais Brigitte Macron, je serais en plus propriétaire, en tout cas, d'une grosse villa de charme pour me reposer entre deux chroniques trop vite oubliées et regarder la pluie qui tombe sur les dunes du Touquet en me disant « Ah, vivement que je rentre à Paris ». La France entière a succombé au charme de Brigitte. C'est la Brigitte Mania. Quand le journal Elle l'a interviewée, il a pété son score de vente. Depuis, la directrice s'est installée à Dubaï. Elle a embauché l'émir du coin en tant que domestique. Et là, c'est Point de vue, le magazine des rois, des reines et des fins de race qui s'accouplent entre eux et font des gosses avec 3 yeux, qui a obtenu les faveurs de Brigitte, notre Brigitte, déesse inaccessible, éthérée, évaporée, et pourtant si proche, je t'aime. Et c'est normal, car en France, le président, c'est un monarque. Hein, quand il gagne, il va à l'Elysée, un F-42 avec dorure d'époque et plancher qui grince. Tous les soirs, Stéphane Plaza se caresse devant la grille en murmurant « quelle hauteur souple plafond, vivement que Mélenchon gagne, qu'on vende ça à la découpe à des Qataris pétés de blé. À titre de comparaison, en Norvège, le type qui accède au sommet de l'État, on lui dit « voilà votre bureau, 4 mètres carrés, chauffé de novembre à mars, vous avez un ordi, un téléphone, et pour votre vélo, il y a un abri à la cave, anti-vol, non fourni. » Mais nous, on s'en veut d'avoir zigouillé Louis XVI. Le 21 janvier 1793, on s'est emporté, à l'époque, il n'y avait pas de Lexomil. Et depuis, notre loulou qu'on a voté pour lui, c'est nos droits, et sa femme, notre reine, et on les kiffe.
Vous savez au moins ce que Brigitte Macron dit dans l'interview à Point de vue.
Plein de choses. Alors d'abord, elle apparaît en une sapée en rose. Hein, elle ressemble un peu à Elisabeth II, mais aussi à un chamallow. Elle explique qu'elle reçoit 140 lettres par jour de gens qui lui demandent surtout de l'argent. Donc elle appelle Bruno Le Maire à Bercy, lui dit « Nono, il reste combien dans les caisses ?» L'autre répond « Rien. D'ailleurs, faut que je raccroche. Si je fais trop de facteurs de téléphone, on va devoir fermer. » Elle dit aussi qu'elle a tissé des liens avec Melania Trump, une mère célibataire qui vit avec son ado, Donald, qui n'arrête pas de tweeter et s'en prend au seul coréen de sa classe, enfin des bêtises d'ado. Ensuite, Point de vue lui dit « Mes majestés, vous êtes si élégantes. Enfin, par la coiffure ondulée de Stéphane Bern, comment faites-vous » Elle répond, c'est véridique, mais c'est simple, je m'habille en Vuitton. Oh là 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 là, mais qu'on est con, on n'y avait pas pensé. Moi là, je suis sur un jean Gap et un polo Célio, je me disais « Zut, d'où vient mon manque de prestance ?» La solution, c'est Vuitton. Puis Brigitte ajoute « J'apprécie que de jeunes stylistes me présentent leurs créations que je porte volontairement. » potier. Hein, quand on galère dans la rue, on demande des tickets resto. Bon, ben, elle, ce sont des fringues de créateurs. Alors, on ne rend pas la monnaie dessus non plus à la brioche dorée. Enfin, elle parle de l'Élysée. La journaliste de Point de Vue, moite, lui dit « Oh oui, dites-nous un mot du château, Altesse !» Et Brigitte dit « J'ai libéré les fenêtres de tentures trop épaisses qui assombrissaient les salons et la lumière entre plus. Tu m'étonnes, Macron, il est trop beau. Il est beau comme une Twingo qui sort de la station de lavage. Il faut l'éclairer. » Il était dans le noir. Brigitte est arrivée, l'a tirée par la main en disant « On laisse pas bébé dans un coin. » Elle a fait tomber les rideaux, tandis que des lapins jouaient de la flûte pour saluer la renaissance de l'enfant roi. C'est beau comme ce couple qui, selon Brigitte, est là son vrai bonheur et pourrait bosser dans une mine chinoise. S'ils sont tous les deux, ils seraient heureux et s'embrasseraient dans le charbon. Ils foutraient le bordel. Leur histoire, c'est Emmanuel plus Brigitte plus la France. Alors vive le roi et vive la reine. Vive Tanguy.
France Inter, les meilleurs moments de la bande originale avec Nagui.
Merci Tanguy Pastureau. Vous, parce qu'il a une course à faire, c'est pour ça qu'il s'en va.
Il vient et repart. Toujours.
C'est chic.
Et timide.
Ah.
Il y a un problème de vessie aussi, je crois.
Marina, l'atelier, en fait, vous, on vous interroge sur ce film, vous le racontez extrêmement bien, y compris la genèse du film, ce que Laurent Cantet a voulu porter, comment c'est passé avec les élèves, mais vous ne deviez pas faire ce film au début.
Non, au début, il voulait une actrice étrangère parce que il voulait éloigner le plus les deux mondes, quoi. Et il se disait que le, même le fait qu'ils aient pas la même langue, c'était un plus pour raconter cette histoire-là. Et puis, il a fait, je crois, une séance de travail avec une actrice donc pas française et un bout du groupe qui venait d'être casté. Non. Non, je sais pas qui. Et en fait, il s'est rendu compte que comme lui,
pas crédible,
il
voulait. Bah, on est d'accord, hein, pas crédible.
On n'y croit pas. Ouais,
Sharon Stone, qui maîtrise pas son petit français. Non, mais il s'est rendu comme il avait le fantasme de travailler quand même beaucoup en impro, comme avec les enfants d'entre les murs. Même si là, ça a été moins le cas que sur Entre les murs, il s'est bien rendu compte qu'il fallait quelqu'un dont le français soit la langue natale, parce qu'ils ont quand même un putain d'accent. En plus, les expressions marseillaises, ils disent des gains tout le temps. Attends, j'en ai oublié, mais je veux dire, c'est carrément une autre langue.
Il y a des gains, c'est il y a personne.
Il y a des gains, et c'est tarpem ding.
Ouais.
Ce qui veut dire, c'est super.
C'est ça.
Donc déjà, moi, j'avais du mal à les comprendre. Je leur ai dit, hein, pour les mettre à l'aise, je ne comprends rien quand vous parlez. Non, mais par exemple, moi, je me souviens. Non, mais pas du tout. Je me souviens un jour, ils m'ont fait. On avait tellement ri, tout. Il y en a un qui arrive avec une gueule bizarre, et l'autre, il lui dit, qu'est-ce que t'as fait ce matin? T'as une tête de fruits et légumes. Bon, c'est comme ça qu'il parle toute la journée. Non, mais moi, je trouve ça hilarant. C'est comme ça qu'il parle toute la journée. Je pense qu'il faut bien maîtriser le français. Donc, j'ai récupéré le rôle. Comme ça.
Très bien.
À la débeauté.
En tout cas, ça fonctionne extrêmement bien. C'est crédible et c'est très agréable ce sentiment de documentaire et de fiction. Et y compris d'ailleurs le suspense de ce rapport qu'il y a entre les deux personnages. On ne sait pas trop. On est même inquiet par moment de la tournure que peuvent prendre les choses.
Tension. Et du rapport au corps aussi dans le personnage d'Antoine, que moi je trouve assez important dans cette envie de se façonner un corps comme se façonner une existence ou trouver un chemin.
Il bosse ses abdos, il se regarde dans la glace.
Un rapport au corps qui est très...
Il fait des selfies.
Ouais, voilà, qui est assez étonnant.
Oui, bah ça c'est
générationnel.
Contemporain.
Ouais, pas que générationnel, enfin je veux dire même nous, hein.
Oui, c'est
tu
ça.
Tu fais des abdos, tu fais des selfies et tu te.
Bah, et pas vous,
tu
peut-être.
Tu t'entretiens.
Nagui, s'il vous plaît.
Quoi?
Oui. Bah, vous pesez 1,5 kg et là, vous venez de me faire 12 selfies.
On fait des selfies pour la
dégueulasse. Des selfies dégueulasses.
Pour l'émission.
Oui, d'accord. Mais donc, on s'en fout que ce soit moche, mais comme tout le monde le fait, on le fait. Mais moi, je le fais.
Je fais pas des selfies de.
Je ne vous juge pas. Je fais du sport. Moi, je pèse 7 kilos. Je mange du thé vert comme toutes les actrices et je fais des selfies. Donc, je me mets pas. Mais c'est vrai. On est, nous-mêmes, on fait ce qu'on fait, ce que tout le monde fait. En fait.
Dans la culture du moi-je, vous voulez dire, un peu.
Aussi, également. Bah oui.
Ouais, c'est pas que les jeunes.
Bah non.
Si on y pensait en se tenant tous la main, là, c'est la culture
non,
du moi-je.
Non, il est temps maintenant d'avoir le rêve de Daniel Morin
oui,
sur
vrai,
France Inter.
La bande originale, le best-of sur France Inter.
Bah déjà, bonne nouvelle, même excellente nouvelle, mercredi 25 octobre à 21h. C'est qui revient sur C8?
Je sais pas.
Pascal, le grand frère. Ouais, la nounou au crâne rasé qui chope les ados par le col. Ça, c'est un gars qui en a dans le froc. Pour le premier numéro, il va s'occuper de Florian et Thomas, deux jumeaux hyper violents qui habitent le Périgord. En même temps, quand t'es ado et que t'es bloqué dans le Périgord, tu m'étonnes que tu deviens violent. Il tuera des gens, je leur jetterai pas la pierre, hein, jumeau maléfique. Imagine leur vie. Déjà, si t'aimes pas le foie gras ni le confit, bah tu meurs. Tu meurs de faim, y a rien d'autre. Non mais c'est sûr, faut que les gosses, ça marche droit, faut que ça file doux, il va te les calmer le Pascal, hein, il va arriver, il va regarder les vidéos, et les deux débuts, ils insultent leurs parents, il va débouler comme une fusée. Ce qui est bien, c'est que le Pascal, il laisse rien passer. Surtout, il parle comme eux. Il gueule. Il gueule et puis il se détend. Il emmène les gamins discuter de leurs problèmes dans la nature.
Voilà.
T'as vu comment tu parles à tes parents, t'as vu ? Oh putain, t'as rien à foutre quoi, t'as rien à foutre, regarde-moi que je te parle, regarde-moi ! Du coup, cette nouvelle m'a un peu angoissé. Pour me calmer, j'ai pris une tisane au shit. Ça m'a anesthésié direct. En deux minutes, je dormais comme un chien mort. Et moi, quand je dors comme un chien mort, eh ben, je rêve. Je rêvais que j'étais chez moi en train de regarder Les Amours pendant que Leïla m'épilait le torse.
Ah oui, tiens.
Quand d'un seul coup, on sonne à la porte, Leïla sursaute, elle m'arrache une bande de cire, un téton avec. Aïe ! J'ouvre la porte. Nom de Dieu, c'était Pascal le grand frère. J'entame la conversation. Asseyez-vous, je vous en prie. Le gars s'assied pas. Il me regarde fixement comme un hibou. Au moment pile poil où j'allais enchaîner pour lui proposer un drink, il me saute pratiquement dessus. Pourquoi tu parles mal dans tes chroniques ? Pourquoi tu parles mal dans tes chroniques ? Pourquoi tu dis de gros mots ? Enfin, je dis pas « Tais-toi, tu manques de respect à Nagui en plus !» Tu lui parles comme s'il était idiot. Non, non, mais je vous explique, en fait, c'est un jeu. Il n'est pas drôle, ton jeu. Tu dois respecter Nagui. Grâce à lui que tu travailles. Viens, on va discuter dehors. Vas-y, parle-moi de tes problèmes relationnels. Pourquoi t'es comme ça avec Nagui? Ben, en fait... Non. En fait, il y a quelques années, quand Frédéric Lopez a quitté France Inter, je me suis senti trahi. J'ai pris ça pour un abandon. Mais pourquoi tu fais payer Nagui? Il n'a rien fait. Je sais pas, c'est sûrement ce que je vois Frédéric Lopez en Nagui. Ils se ressemblent tellement tous les deux. Tu as arrêté de l'embêter, Nagui? Ouais, c'est vrai que c'est injuste de ma part. Ah, demain, tu vas lui dire, tu l'aimes, tu lui fais un béco. D'accord, mais sans la langue. Ah bah si.
Non.
Ah bah si, quand on aime, on met la langue. Hein. On peut demander à Madame Nagui d'être là aussi. Non, 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 non. C'est en train de toi, lui. Bon, chelou mon rêve, c'est vrai.
Oui.
Hyper chelou. Non, parce que si ça marche, ce serait intéressant de voir Pascal le grand frère débarquer chez Mélenchon. Quoi, qu'est-ce que vous me voulez? C'est toi, Mélenchon, c'est toi qui parles mal de Macron? Absolument, c'est un traître. Non! Tu es trop pour qui pour parler comme son président? Mais enfin, tu m'écoutes maintenant, tu m'écoutes, tu leur fermes ta gueule! Mais non! Viens avec moi! On va parler dans les bois. Hein. C'est quoi le problème avec Macron? Pourquoi tu m'échappes avec lui? Bon, en fait, c'est parce que je voulais être président de la République, c'était un rêve de gosse et j'ai l'impression qu'il me l'a piqué. Voilà. Ça n'a rien à voir, c'est pas sa faute! C'est la décision du peuple! Tu sais quoi? Tu vas aller le voir, tu vas t'excuser! Ah non, je peux pas... C'est... Non, vite! Tu vas laisser t'asseoir dans ton fauteuil du président, tu vas voir, il va être sympa avec toi!
Il
tu crois?
Peur.
J'en suis sûr! Bon, ok, j'irai le voir demain. Merci, grand frère. Non, de rien, mais allez! Viens faire béco, Pascal! Ah non, pas la langue. Bah si, hein, c'est le tarif! Ouais, chelou aussi, ce rêve-là. Hein.
Ça fait peur.
À dimanche!
Merci, Daniel Morin. À dimanche,
oui. France Inter. La bande originale, le best-of, avec Nagui.
Voici Kimber Rose qui revient avec It's Probably Me, le groupe Kimber Rose dans la bande originale. Oui.
If the night turned cold and the stars look down, and you hurt yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's cold. No one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say that it's probably me. When your barrel is empty and the hunger's so real,
And you're too proud to be, and you're too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and shit me. I hate to say, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go away. Lonely made me cry. But if there's a one girl, just one girl, who'd lay down a life for you and I? I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to see it. It's probably me. I hate to see it. It's probably me.
France Inter, la bande originale. Le best-of.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Ah, désolé déjà pour tous les employés des péages de France qui nous ont appelés pour nous dire que les deux Marina n'étaient que des méchantes artistes vilaines, aigries, qui n'avaient pas réussi à aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est pas faux, les gars. Je suis désolé pour Pef, dont le talent était résumé par Marina Foïs à se prendre du vomi dessus. Pas mal le prendre, bref, quand c'est bien fait. Désolé.
Il va, une des personnes qui fait le plus rire au monde.
Ouais, il va mal prendre, hein, tout ce qu'on vous avait dit sur lui. Hein. Il est fragile comme garçon.
Vous croyez ?
Il est très parano en plus. Et désolé enfin pour l'orthophoniste de Nagui qui a pu entendre ce matin, comme toute la France, qui avait encore pas mal, si ce n'est dire, énormément de boulot. Courage, Doc.
T'as raison. Beaucoup de boulot. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui, mais on sera là lundi en direct avec toute la bande au grand complet. Cadmerade en invité, en live, Baxter Dury. En attendant, voici les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée et bon week-end.